Chers amis, c'est une joie de retrouver tous ceux qui parmi vous, le Père Richard l'a rappelé, étaient au parcours de la gratitude l'an dernier, en espérant que vous continuez à muscler cette vertu si salvatrice et que vous restez, comme le dit notre cher curé, dans la gratitude attitude. Bienvenue évidemment à tous ceux qui nous rejoignent cette année pour notre parcours intensif de paix. Merci Romain. Je le cite dans le quatrième soir, j'ai bien fait. Ce parcours a été construit à partir des quatre ouvrages suivants. Recherche la paix et poursuis-la, et 9 jours pour accueillir la paix du père Jacques Philippin. Le royaume caché d'Éloi Leclerc et la tactique du diable de C.S. Lewis. Ces ouvrages seront en vente à la fin de cette soirée et de la quatrième, mais ça peut être une bonne idée d'en lire un ou deux pendant notre parcours, ou les quatre. Il me faut aussi, avant de commencer, saluer le travail considérable réalisé par Astrid Wartel et Lucie Landiveau, aidé par Jean Guilhem et le Père Richard, pour construire concrètement le contenu de ce parcours que j'aurai la joie de vous faire découvrir au cours de 4 soirées. Eh bien, sans tarder, entrons sur notre chemin de paix. Si j'avais été évêque, et que ma chère épouse n'y voit aucun regret, j'aurais pu commencer ce topo par la salutation de Jésus à ses disciples après sa résurrection. « La paix soit avec vous ». Incroyable salutation s'il en est, qui nous montre immédiatement l'origine de la paix dont nous allons parler, Jésus-Christ. Notre parcours de paix sera un chemin vers la paix que Dieu nous donne. Cette paix suprahumaine, spirituelle, dont Jean Guilhem nous a très bien parlé le 8 octobre dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, l'enregistrement de sa conférence est bien sûr sur le site de la paroisse. Et le but, ce n'est pas ici la paix humaine, psychologique, mais bien la paix spirituelle, qui est don de Dieu. Et on pourrait presque s'arrêter là, considérant que tout est dit, mais je vous rassure, ou pas d'ailleurs, on va un peu approfondir le propos. Ce verset de la lettre aux Colossiens de saint Paul en introduction, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs ». Ce parcours intensif de la paix n'a pas pour but, navré, de nous assurer une vie paisible comme un long fleuve tranquille. De toute façon, ce serait une promesse impossible à tenir, mais de nous aider à garder en toutes circonstances un cœur serein, que rien ne trouble, comme nous allons chanter tout à l'heure avec notre brillant cœur, avec le Nada Te Turbe. Juan de Bonilla, qui est l'auteur d'un petit livre de sagesse sur la paix intérieure au XVIe siècle, dit « L'expérience vous montrera que la paix, laquelle répandra en votre âme la charité, l'amour de Dieu et du prochain, et le chemin tout droit vers la vie éternelle. » Pourtant, notre époque, on le constate, est une époque d'agitation, d'inquiétude. Cette tendance, elle est, je crois, assez évidente dans notre quotidien, mais se manifeste aussi dans nos vies de chrétiens. Notre recherche de Dieu, de la sainteté, du service du prochain est fréquemment agitée, anxieuse, au lieu d'être confiante et paisible, comme si nous étions dans l'attitude des petits-enfants dont nous parle l'Évangile. Je cite le chapitre 18 de Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit-enfant, il le plaçait au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Selon Éloi Leclerc, donc dans l'ouvrage « Le royaume caché », cette phrase est l'une des plus belles des évangiles et les plus chargées de sens. Je cite Éloi Leclerc. « On y a vu le plus souvent, non sans raison, un appel à la candeur et à la confiance. Mais il y a sans doute beaucoup plus dans cette parole de Jésus. L'enfant est un être tout entier tourné vers l'avenir. Il est tout le contraire d'un être fixé, figé, prisonnier d'un passé. » Il est ouvert dans l'émerveillement, à la nouveauté, à l'imprévisible. Accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, c'est laisser Dieu se révéler dans son imprévisible nouveauté, sans chercher à l'enfermer dans le passé. Et la grâce que nous allons demander pendant ce parcours, c'est donc de recevoir la paix de Dieu dans notre cœur, de manière plus profonde, plus abondante, et d'être capable aussi de transmettre cette paix autour de nous. Il y a une première chose qui est fondamentale, c'est que nous soyons convaincus que le cheminement vers Dieu, vers le ciel, avec bien sûr l'aide de Dieu, est plus efficace, court et aisé lorsque l'homme a su apprendre peu à peu à conserver en toutes circonstances la paix profonde de son cœur, car alors il se rend docile à l'Esprit Saint. Et le Seigneur peut faire pour lui par grâce, par pure grâce, et bien plus que l'homme ne peut faire évidemment par ses propres efforts. Au fond, le but de tout, c'est d'être en paix. Jean Guilhem a bien distingué la paix humaine qu'il me revient de construire, c'est ma responsabilité, de la paix divine, celle dont on parle ce soir, que je dois apprendre à accueillir par ma conversion peu à peu. Comme me le dit souvent ma femme, moins de toi et plus de Dieu. Souvenons-nous aussi de la septième des béatitudes de l'évangile de Matthieu, de saint Matthieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et puis il est clair aussi que nous ne pouvons transmettre cette paix qui vient de Dieu que si elle demeure en nous. Autre passage important de la Bible, saint Paul dans la lettre aux Colossiens dit « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs ». Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblé en un seul corps. Et donc, selon Paul, c'est donc un véritable appel à accueillir sa paix que Dieu nous adresse. On peut dire aussi qu'être en paix, c'est un élément essentiel de la vocation chrétienne. Appel spécialement fort aujourd'hui. Il y a clairement une urgence spirituelle à accueillir et à transmettre la paix de Dieu. Et, pour nous rassurer, la première mission d'un chrétien, ça n'est pas d'être parfait, c'est une bonne nouvelle, ni de résoudre d'ailleurs tous les problèmes, mais c'est d'être en paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. On peut citer Etil Soum, dont nous a déjà parlé Jean-Guilhem Xéry, qui est une jeune femme juive qui vivait à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Sous la persécution nazie à Amsterdam, elle a écrit « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. » Et en effet, plus le monde est en crise, plus il est important que notre cœur, notre propre cœur, soit en paix. Et on peut distinguer, discerner assez facilement que si on laisse l'agitation et la peur envahir notre cœur, eh bien il y a un grand risque que nous réagissions mal aux événements auxquels nous devons faire face, par la fermeture, par la fuite, parfois par la violence, ou bien que nous prenions des décisions précipitées qui risquent d'augmenter le mal au lieu de le diminuer. C'est pourquoi notre parcours comportera 4 étapes, le père Richard les a citées mais je les reprends. La première ce soir, qu'on va développer un peu plus, c'est l'urgence de la paix, don de Dieu et mission du chrétien. La semaine prochaine, nous verrons, on l'avait fait déjà pour la gratitude, comment connaître et franchir les obstacles à la paix. Dans la troisième soirée, nous verrons comment faire grandir cette paix en nous. Et puis, comme nous l'aurons fait grandir, dans la quatrième soirée, nous verrons comment prendre soin et conserver cette paix intérieure. Donc voyons ce soir encore 5 points. La première chose dont nous devons être convaincus est que tout le bien que nous pouvons faire trouve sa source en Dieu et en lui seul. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus de cela? Jésus nous dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » en Jean 15. Il ne nous a pas dit « Vous ne pouvez pas faire grand-chose », il nous a dit « Vous ne pouvez rien faire ». Et je crois qu'il est essentiel d'être persuadé de cette vérité. Il nous faudra, c'est vrai, des échecs, des épreuves, parfois des humiliations, mais qui vont nous faire faire l'expérience de notre impuissance à faire le bien uniquement par nous-mêmes. À l'inverse, si nous prenons au sérieux cette parole du Christ, alors nous comprenons que l'enjeu fondamental de notre vie spirituelle et de chercher comment laisser Jésus agir en nous afin que nos cœurs soient le reflet paisible du sien. Et ce que nous devons viser, ça n'est pas finalement de faire des tas de choses, si bonnes soient-elles, avec notre propre intelligence, selon nos projets, notre volonté, nos capacités, mais sans doute plutôt d'essayer de découvrir quelles sont les dispositions de notre âme, les aptitudes profondes de notre cœur, les conditions spirituelles qui vont permettre à Dieu d'agir plus efficacement en nous. Alors à cette question, que devons-nous faire pour laisser la grâce de Dieu agir librement dans notre vie? Il n'y a malheureusement pas de réponse univoque, ni de recette passe-partout. Mais il y a un point commun dont nous pouvons nous souvenir. C'est de rechercher et de conserver la paix intérieure, la paix de notre cœur. Pour le comprendre, on peut utiliser une image, qui je crois est du Père Richard, évidemment à pas trop forcer comme toutes les images, mais une comparaison que je trouve assez éclairante. Considérons la mer, l'océan. Depuis la surface jusqu'aux abysses, la mer est à 99% calme, même dans la plus violente des tempêtes. Ce n'est que la surface, en fait, qui est agitée. Il suffit de descendre de quelques mètres pour retrouver un calme parfait. Si bien qu'entre la mer d'huile et la mer déchaînée, eh bien, la mer demeure inchangée en quasi-totalité. Elle est calme et silencieuse. Eh bien, ainsi devrait-il en être de notre âme, c'est-à-dire ne pas vivre toujours en surface, mais savoir descendre en nous-mêmes pour y retrouver la paix et pouvoir entendre la voix de Dieu. Autrement dit, la paix que Dieu nous donne, elle est là. Elle nous habite toujours, mais nous en perdons parfois l'accès. Dans La tactique du diable, qui est un des autres ouvrages que je vous ai cités tout à l'heure, de C.S. Lewis, il imagine des lettres entre deux démons, un vétéran de la tentation qui écrit à son neveu novice, voilà, pour le donner des conseils ou le réprimander. Alors, je fais une parenthèse, je citerai pas mal cet ouvrage. Quand je parle de l'ennemi en citant Lewis, l'ennemi c'est Dieu, c'est notre Dieu puisque c'est le diable qui parle. Et donc dans une de ces lettres, Screwtape, c'est le nom du démon, s'exclame « La musique et le silence, comme je les déteste, car le bruit c'est la dynamique de notre système. Nous finirons par remplir tout l'univers de bruit. Nous avons déjà fait un pas de géant dans ce domaine en ce qui concerne la Terre. » Et souvenons-nous en effet que Dieu est le Dieu de la paix. Il ne parle et il n'opère que dans la paix, et pas dans le trouble et l'agitation. Il suffit de regarder le prophète Élie à l'Horeb. Dieu n'était pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le souffle d'une brise légère. Et c'est vrai que souvent, nous avons tendance à nous agiter, nous inquiéter, en voulant tout résoudre par nous-mêmes avec nos petits bras. Et pourtant, il serait plus efficace de rester paisible sous le regard de Dieu et de le laisser lui agir et œuvrer avec sa sagesse et sa puissance, évidemment infiniment supérieure aux nôtres. Ne nous méprenons pas, je ne vous invite évidemment pas à la paresse et à l'inaction, mais à agir, et à agir beaucoup parfois, sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, qui encore une fois est toujours un esprit doux et paisible. Saint Vincent de Paul, qui est sans doute la personne la moins soupçonnable de paresse, disait « Le bien que Dieu se fait quasi lui-même, sans qu'on y pense. Soyez plutôt pâtissant qu'agissant, et ainsi Dieu fera par vous seul ce que tous les hommes ensemble ne sauraient faire sans lui. » Vous connaissez aussi cette histoire de Sainte Mère Thérésa, mais que je vous rappelle. Un jour, une sœur vient la voir et elle lui demande de raccourcir le temps de prière parce que le temps manque pour s'occuper des malades. Mère Thérésa lui répond « Tu as raison, ma sœur, nous n'avons ni le temps ni les forces de nous occuper de tous les pauvres que le Seigneur nous envoie. Eh bien, nous allons prier deux fois plus et le Seigneur nous donnera le temps de nous occuper deux fois mieux des malades. » Premier point, donc, chercher la paix, c'est agir, mais agir avec Dieu. Deuxième point, on pourrait objecter, mais que finalement, cette recherche de la paix intérieure est égoïste. Comment faire l'un des buts principaux de nos efforts alors qu'il y a tant de souffrance, de misère dans le monde? Mais à cela, on peut répondre que la paix intérieure dont il est question est celle de l'Évangile. Elle n'a rien à voir avec de l'impassibilité ou une froide indifférence recluse sur elle-même, un peu à l'image des statues de Bouddha. Au contraire, et nous le reverrons bien sûr, cette paix est le corollaire nécessaire d'un amour, d'une vraie attention aux souffrances du prochain et d'une compassion authentique. Car en fait, seule cette paix du cœur nous libère de nous-mêmes et donc augmente notre sensibilité à l'autre et nous rend disponible au prochain. Au fond, on peut dire en une phrase que seul l'homme qui jouit de cette paix intérieure peut aider efficacement son frère. C'est assez logique, car en effet, comment communiquer la paix aux autres si je ne l'ai pas moi-même? Comment y aura-t-il la paix dans nos familles, nos sociétés, entre nous, s'il n'y a pas d'abord la paix dans chacun de nos cœurs? Jean-Guilhem Xéry disait « cette paix à la saveur de Dieu ». Donc le deuxième point, la paix est une condition de ma disponibilité et de mon attention aux autres. Troisièmement, on doit ici affirmer une autre vérité. La vie chrétienne est un combat, et parfois une guerre sans merci. C'est pourquoi saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, vous vous souvenez, nous invite à revêtir l'armure de Dieu. Phrase de Jean Cassien, qui était un disciple des pères du désert, « Jusqu'à ce que nous obtenions cette paix solide et durable, nous devons nous attendre à de multiples assauts. » Il nous faut donc être convaincus que pour avoir la paix intérieure et la conserver, le combat est inévitable. Mais attention, celui-ci est à comprendre comme une réalité positive, car il va être le lieu de notre croissance spirituelle, où nous apprenons à nous connaître nous-mêmes dans notre faiblesse et à connaître Dieu dans son infinie puissance et miséricorde. Et le combat spirituel du chrétien, s'il est rude, n'est pas une lutte désespérée de quelqu'un qui se bat dans la solitude ou à l'aveuglette et sans certitude quant à l'issue. Il est le combat de celui qui lutte avec la certitude de ne pas être seul. Bien sûr, l'arme principale de ce combattant, c'est la foi, l'adhésion totale au Christ, qui permet, même dans les moments les plus difficiles, de s'abandonner à celui qui ne m'abandonne jamais. Le psalmiste s'écrit « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » C'est le psaume 15. Alors nous combattons, non sans douleur, mais nous devons combattre avec un cœur paisible. Et d'ailleurs, notre combat sera d'autant plus efficace que notre cœur sera paisible. On peut se poser la question cette semaine, comme premier peut-être travail au-delà de cette soirée, contre quoi ai-je à combattre pour gagner en paix? Moi, je peux vous dire que les mirages du confort matériel sont un vrai combat, car ils détournent souvent mon temps et mon esprit de l'essentiel. Un progrès, aller servir comme hospitalier à Lourdes, serviteur inutile mais dévoué, eh bien, m'a fait un peu, pas complètement, vous direz mon épouse, grandir en détachement. Donc je bénis ces envoyés de Dieu. Et puis on peut suivre aussi le conseil de Jean-Guilhem Xéry et lire ou relire Séraphin de Sarov, que je cite, « Si l'homme ne méprise pas les biens de ce monde, il ne peut avoir la paix. » La paix intérieure, on le voit, est donc non seulement une condition pour gagner le combat, on l'a dit, mais c'est aussi l'enjeu même de ce combat. Sachons aussi que, fréquemment, le combat spirituel peut consister à défendre la paix de notre cœur contre l'ennemi qui veut nous la ravir. Et une des stratégies les plus habituelles du démon pour éloigner une âme de Dieu et retarder son progrès spirituel, eh bien, c'est précisément de tenter de lui faire perdre la paix intérieure. Voici ce que dit un des grands maîtres spirituels du XVIe, très estimé de saint François de Sales. Je cite, « Le démon fait tous ses efforts pour bannir la paix de notre cœur, parce qu'il sait que Dieu demeure dans la paix, et que c'est dans la paix qu'il opère de grandes choses. » Et je pense qu'il est utile de s'en souvenir, car dans le déroulement quotidien de notre vie chrétienne, nous pouvons nous tromper de combat si nous orientons mal nos efforts. Et c'est ça un des grands secrets du combat spirituel, en fait. Ne pas se tromper de combat, mais savoir discerner, malgré les ruses du mauvais, le véritable champ de bataille, là où nous devons porter nos efforts. Et là, je vous recommande vivement, à cet égard, la lecture de La tactique du diable de C.S. Lewis. C'est en plus bien écrit, assez drôle, et comme ça se place du point de vue du malin, on est assez bien, vite informé sur ses tactiques. Et puis, surtout, évitons aussi de penser que remporter le combat spirituel, ça signifie vaincre tous mes défauts, ne jamais succomber à la tentation, n'avoir aucune faiblesse ni défaillance. Ça, sur ce terrain-là, c'est sûr, on sera immanquablement vaincu. Qui peut prétendre ne jamais tomber? Et d'ailleurs, c'est certainement pas Dieu, ce que Dieu exige de nous, puisqu'il nous connaît parfaitement. Non, le véritable combat spirituel consiste principalement, quatre tirets importants, à apprendre à accepter, sans nous décourager pour autant, de tomber parfois. Et à ne pas perdre la paix de notre cœur quand il nous arrive de chuter. Aussi, ne pas nous attrister excessivement de nos défaites. Et puis, savoir profiter de nos chutes pour rebondir plus haut. C'est toujours possible, à condition évidemment de ne pas s'affoler et de rester en paix. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'endormait parfois pendant l'oraison. Elle se réveillait. Et au lieu de se lamenter en se disant « je suis nul », elle disait « Jésus, je me suis endormi, tu m'as réveillé et je suis tout à toi ». Le père Jérôme d'Hernancourt, qui est venu nous parler de l'adoration perpétuelle, disait « nous ne nous désolons pas de notre adoration pour tous ceux parmi vous à qui ça peut arriver ». On résume ce point, le premier combat spirituel, ça n'est pas d'obtenir toujours la victoire sur nos tentations, nos faiblesses, mais plutôt apprendre à garder son cœur en paix en toutes circonstances, même en cas de défaite. Je ne m'attarde pas davantage sur ce point, nous aurons une soirée spéciale le 14 janvier prochain avec le père Antoine d'Augustin, recteur de Notre-Dame des Victoires. Le quatrième point, si nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles nous perdons la paix donnée par Dieu, on verra que c'est toujours de mauvaises raisons. On étudiera ça la semaine prochaine aussi, je fais un peu de teasing, comme ça vous revenez. Rester dans la paix ne peut pas se fonder sur des considérations humaines. Ça ne peut être qu'une certitude de foi fondée sur la parole de Dieu. Jésus lui-même nous l'a dit clairement. « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre peur, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » En Jean 14. Et donc si nous cherchons la paix comme le monde la donne, c'est-à-dire, bah, tout va bien, je suis cool, j'ai pas de contrariété, mes désirs sont satisfaits, il est sûr que nous ne serons jamais en paix, ou en tout cas que cette paix sera de courte durée et fragile. Puisqu'en fait, nous restons à la paix humaine, là encore, dont Jean-Guilhem nous a bien parlé, elle est souhaitable, mais elle est insuffisante. Pour nous croyants, la raison essentielle pour laquelle nous pouvons toujours être en paix ne vient pas du monde. Elle vient de notre confiance en la parole de Jésus. Quand le Seigneur affirme qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous donne sa paix, il faut bien que nous disions que cette parole divine a la même force créatrice que la parole qui a fait surgir du néant, du tohu-bohu, le ciel et la terre, la même puissance que la parole qui a calmé la tempête et la même efficacité que la parole qui a guéri les malades et ressuscité les morts. Je vous donne ma paix. Et Jésus nous le déclare par deux fois. Donc, croyons que cette paix ne nous sera jamais retirée, même si c'est vrai, et c'est un des buts de ce parcours, nous ne savons pas toujours l'accueillir ou la conserver. La paix, un don de Dieu une fois pour toutes. Cinquième et dernier point, la paix intérieure dépend donc de notre attitude vis-à-vis de Dieu, on le voit bien, de notre intimité même avec lui. Si on s'oppose à Dieu, si on le fuit plus ou moins consciemment, si on fuit ses appels, là aussi, on aura du mal à être en paix. Dieu nous a fait pour lui et nous ne pouvons pas être dans une paix profonde et durable si nous sommes loin de lui. Restons conscients que si on est proche de Dieu aussi, en l'aimant, en désirant le servir, là encore, le démon a ses petites stratégies et de nous tenter encore une fois de faire perdre cette paix du cœur. Alors on peut se répéter à l'envi cette célèbre phrase de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Et pour cultiver cette proximité avec Dieu, il y a une autre condition nécessaire, c'est notre bonne volonté à nous. La bonne volonté, c'est une disposition stable et constante de l'homme qui est décidé à aimer Dieu plus que tout, qui désire sincèrement en toutes circonstances préférer la volonté de Dieu à la sienne, qui lui dit oui, librement, comme le fiat de Marie. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, mon comportement ne sera pas toujours en harmonie parfaite avec ce désir. Mais après une défaillance, eh bien, je peux m'efforcer de rechoisir de dire oui à Dieu en toute chose. C'est ça notre bonne volonté. Encore une fois, ça n'est pas la perfection, la sainteté achevée. Elle va coexister avec mes hésitations, des imperfections, des fautes. Mais c'est le chemin, car par cette disposition habituelle du cœur, la grâce de Dieu va peu à peu nous permettre de nous porter vers la perfection. Sans doute, c'est pour ça que Jésus nous dit « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et cette bonne volonté, cette détermination habituelle à toujours choisir de dire oui à Dieu dans les grandes comme dans les petites choses, eh bien, c'est aussi une condition sine qua non de la paix intérieure. Bien sûr, elle ne se forge pas en un jour, cette bonne volonté, mais ce parcours, on espère, est là pour nous y aider. Si je résume les points saillants de ce soir, il y a une urgence de la paix. Car la première mission du chrétien, ça n'est pas d'être parfait, mais d'être en paix avec Dieu, soi-même et les autres. La paix est un don de Dieu à accueillir, mais un don qui ne peut pas nous être retiré. Elle passe par un combat spirituel et même nécessite ce combat intérieur. Mais Dieu est là et Dieu agira avec notre bonne volonté. Je laisse le Père Richard bientôt introduire vos échanges avec les questions, des questions. Et donc la semaine prochaine, comme on l'a dit, nous verrons comment connaître et franchir les obstacles à la paix. Et d'ici là, beaux échanges.
Merci Ludo. Donc il est 9h15. On va vous donner jusqu'à...